On va rester très professionnel, donc on va se tutoyer, ce qui ne se fait habituellement pas dans un espace public ou radiophonique. Juste une petite annonce, Jérôme passera dans l'émission Entre les lignes sur Espace 2 mardi prochain, le 24 mai, de 11h à midi. Et c'est donc une opportunité, et je remercie beaucoup Sylviane Dupuis de cette invitation. C'est pour nous aussi l'occasion d'exercer tous les échos que ces livres rencontrent, avec une focale qu'on va placer ce soir autour de Fantômes, dont vous avez peut-être vu la couverture et qui est donc vendue par la librairie du Parnasse, qui est un livre qui me semble marquer une étape et aussi une sorte de pas de côté par rapport à l'écriture de Jérôme Maizot, avec de très belles aquarelles de Zivoslav Ivanovitch, un ami de Jérôme, très belles aquarelles qui donnent aussi écho à un imaginaire, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis on se penchera aussi dans une deuxième partie de soirée sur La fabrique des singularités, Posture littéraire 2, que Slatkin a publié il y a peu, donc deuxième tome de ces postures littéraires, et qui nous permettra de revenir aux travaux réflexifs et théoriques de Jérôme Maizot. Mais avant, c'est bien normal, on va lui laisser tout le champ de la parole pour des lectures tirées précisément de Fantômes. Jérôme, tu pourrais nous présenter les textes que tu vas lire.
Oui, alors bonsoir tout d'abord. Je vais vous lire, pour commencer, dans un premier temps, deux textes de Fantômes, deux petits récits. Bon, je ne vais pas spécialement présenter le livre parce qu'on va en parler, mais disons que c'est tout un ensemble de petites nouvelles autour de la question du spectre, des disparus, de scènes de disparition et de ce qui reste des disparus dans la mémoire. Donc c'est des textes qui évoque ça, je crois qu'il n'y a pas besoin de les commenter beaucoup plus, je vais lire directement. Donc le premier texte s'intitule simplement 4, 5, 6, 7, et vous comprendrez. On allait passer à table tous les six, mais maman avait mis comme toujours 7 assiettes. Le petit dernier trépignait sur sa chaise et Mad pestait contre la télévision. Père voulait connaître d'abord les résultats de la course de ski. On avait donc fixé le carré blanc, les petits personnages traversaient le brouillard dans des sifflements glacés. Une voix parlait tout le temps, citait des noms, puis le temps intermédiaire du chronomètre. Elle s'exaltait soudain, puis retombait lasse et le champ de neige mangeait à nouveau tout l'écran. On reconnaissait nos skieurs à leur combinaison rouge, au casque à croix blanche. Tout ce qui nous importait était que l'un d'eux monte sur le podium, surtout celui qui était né dans le village voisin. À un moment, la course semblait jouée, les dossards trahissaient la queue de liste. Maman nous a appelés à la cuisine et on s'ébrouait pour rejoindre les plats fumants quand le téléphone a hurlé. Mad était mécontente ce matin-là, je ne sais plus pour quelle raison, et le petit a tout de suite remarqué les épinards dans le plat. Il a déclaré avec cet aplomb des gosses singeant les adultes qu'il n'en mangerait pas. Pas question. Il s'est mis à se chamailler avec maman, elle s'énervait pour un rien. Je ne savais pas ce qui s'était passé. On les entendait discuter avec père dans la cuisine, la porte mi-close, tous deux préoccupés. Non, pourtant, ce n'était pas une dispute, plutôt un poids qu'ils portaient ensemble, qu'ils se relayaient pour tenir à bout de bras. Les mots nous parvenaient par bribes, mêlés aux odeurs de viande, d'oignons, portés par le souffle de la hotte d'aspiration. C'était le temps où la famille de maman n'avait plus de bétail, tout avait été progressivement abandonné. Grand-mère était morte dans son lit, bien tranquillement. Avec elle, ses plantes sauvages pour les cataplasmes, ses soins aux poules, la couronne de la Saint-Jean qu'elle clouait chaque année sur les tables, tout un monde lent, répétitif, privé d'horizon, s'était évanoui pour toujours. On avait hâte de refaire la maison, de disposer d'une cuisine moderne, de faire disparaître les traces de notre ancienne cohabitation avec les bêtes. L'écurie à chèvres avait été transformée en cave-atelier, la grange à foin vide servait à entreposer de vieilles poutres. La herse où le cheval bijou s'était éventré, c'était incontestablement le drame familial en titre, vieux de 40 ans, gisait sous une bâche poussiéreuse. Il ne restait que les clapiers des lapins. On les nourrissait tous les jours, remplissant d'eau leurs écuelles de terre cuite. On jouait à les chatouiller avec des herbes. Tel samedi, père en sortait un par les oreilles, se détournait de nous pour l'entêter d'un coup, et on le retrouvait le lendemain dans le plat de midi, juste après la grand-messe. Il aurait pu nous avertir quand même. S'il a passé la nuit chez des copains, il devrait nous avertir. Laisse-le dormir à son âge après une grande fête, on ne pense pas tout de suite à faire signe. Écoute, je sais bien qu'il a 18 ans, mais il n'a jamais fait ça, tu sais. L'humeur des parents nous rendait tous bizarres. Mad et Bess jetaient déjà des mots désagréables, s'arrachaient un habit. Jacob était remonté dans sa chambre où il poussait le tourne-disque à fond. Un groupe de jeunes Américains chantait à tue-tête sa nouvelle liberté. Faites l'amour, pas la guerre. Et sur la pochette, leurs immenses chevelures tissaient tout l'espace. Tant de cheveux proliférants, tant de sève insensée. Cela agaçait notre coiffeur qui avait toujours pratiqué la seule coupe. La rase, la militaire, celle qui régnait sur toutes les têtes depuis des décennies et que nous promettait père sur un ton menaçant. Je t'envoie immédiatement chez Pasquier dès que nos mèches en désordre filaient trop au vent. Quand le téléphone s'est mis à sonner, c'est comme si le temps se dilatait. Tout le monde demeurait immobile et dressait les oreilles comme l'aurait fait le lapin hier encore. C'était lointain, personne ne semblait réaliser l'appel ni se décider à y aller. Les parents se jaugeaient, on avait déjà nos fourchettes en main et la viande dans l'assiette, nos narines frémissaient, la salive inondait les gencives qui pouvaient bien nous déranger à ces heures. Dans cette torpeur, père s'est brusquement levé et son pas était soudain preste pour rejoindre le bureau. On est restés là tous les cinq, maman avait encore la louche à la main comme suspendue. C'est le moment qu'il appelle, on l'attendait aussi pour le dîner, a-t-elle dit seulement. On cherchait tous à identifier l'interlocuteur, mais rien ne nous parvenait du bureau. Là-bas, une zone de silence allait croissante, étouffant les pas précipités de père. Elle gagnait peu à peu la cuisine et d'un coup, on pouvait entendre les services teintés contre les assiettes. Le même bruit que les mâts des voiliers dans les ports la nuit. La voix de papa nous parvenait quand même, une bouillie de mots, mais le ton était inaccoutumé, fâché ou pressé. Père était toujours expéditif au téléphone, il n'avait pu s'habituer à ce moyen abstrait qui le réduisait à une voix. Minimal au bout du fil, il s'en tenait à la communication de service. Pas de trace d'émotion. À ses interlocuteurs, il semblait bourru ou pressé. Mais là, il restait apparemment accroché au récepteur et longtemps, on ne l'entendait plus. Puis à nouveau une réplique, comme une salve. Si ce n'était pas Samuel appelant de chez ses copains pour dire de ne pas l'attendre, ce devait être un bavard, peut-être un cousin dont on était sans nouvelles depuis des mois, ou un voisin mécontent qui s'adressait directement, samedi inclus, au conseiller communal responsable des constructions. Mais d'habitude, père ne s'en laissait pas compter, il prenait le dessus, il donnait des chiffres ou il citait des règlements. Comme si elle devait sortir d'une gangue ou d'un marais, maman tirait sa chaise et se dirigeait vers le bureau. On était là tous les quatre devant nos assiettes, trois couverts maintenant étaient délaissés et nous cessions de manger. Le plat abandonné tanguait au milieu de la table. Le petit dernier ne touchait toujours pas à ses épinards. « Pourtant, ils sont pleins de fer, tu deviendras solide. » Mais rien à faire, il tapait maintenant de sa fourchette sur le bois de la table, agité ou replié sur un monde caché, en chantant le générique de son émission préférée. 4, 5, 6, 7, Baby Bouchette. Il disait qu'hier au soir, Samuel, juste avant de partir, s'était rasé puis l'avait assis sur ses genoux pour le ceintionner. Le petit dernier montrait le siège inoccupé et l'assiette restait blanche comme la neige des concours de ski. Maintenant, il battait un rythme plus nerveux que celui de l'horloge, traduisant comme en morse les silences de la maison. Et tandis qu'il fermait maintenant les yeux pour nous échapper, on entendait tout d'un coup les cris de maman là-bas, dans le bureau, et père haussait la voix pour la colère ou la prière, exigeant qu'on lui dise ce qui était arrivé, puis posant la même question plusieurs fois encore. Comme un sourd l'aurait fait, ou comme si la ligne avait été coupée. Le texte qui suit s'intitule « Saut du loup ». C'est le frère de la tante Bertha, le cantonnier, qui nous a ramenés en plaine à la tombée du jour. On s'est enfilé dans la voiture et nos questions se cognaient à la vitre. Le retour imprévu nous laissait sans voix. On avait lâché nos jouets. Durant ces trois jours, tout a été si précipité, incompréhensible. Arrivé à la sortie du village, la route formait un tournant au bord d'une pente vertigineuse. Derrière la glissière bombée, on devinait tout en bas une gorge, où vivait un ermite, ajoutait la tante. On était attirés par cette chute, on aurait voulu savoir l'histoire de ceux qui étaient tombés, ceux qui gisaient là en bas, mais l'oncle disait simplement « c'est le sceau du loup », comme si ce nom n'appelait aucune explication, comme s'il avait toujours été là, mythologique. Mais on pressait le chauffeur de questions et en recollant ces courtes phrases, l'histoire prenait corps visible, comme avec nos puzzles. Si on prêtait l'oreille, on pouvait encore entendre l'écho du hurlement d'un loup dans la gorge. C'était le dernier de la vallée. Il y était tombé autrefois, poursuivi par des chasseurs. À présent, il n'y a plus de loup ici. Et les enfants peuvent jouer tranquilles dans le village, concluait l'oncle en manœuvrant le break VV. Tout en bas, on voyait les villages de plaine, les vignes grises encore malgré l'herbe revenue, et les lampes publiques déjà en veille. C'était comme si l'on survolait toute la vallée dans la grande voiture qui nous emmenait pour la première et dernière fois. Tout était vu d'en haut, dans un silence irréel. L'oncle nous parlait sur un ton doux, comme si on avait droit soudain à des égards. Depuis quand faisait-il le chauffeur sur demande après le travail ? En façade comme en coulisses, la tante Bertha n'avait pas donné d'autres explications à notre départ pour ces 3 jours. À peine que maman avait besoin de repos et que le temps était idéal pour passer quelques jours à la montagne. On ferait du feu, la cousine Annette serait de tous les jeux, on aurait droit à glisser dans les prés sur les matelas oranges comme l'été précédent. Notre avis n'avait pas été consulté, tout s'était organisé à la hâte. Chaque recommandation de la tante tombait avec clarté, comme le soleil à nouveau mordant. On était juste après Pâques. Les mélèzes avaient déjà mis leur vert tendre. Cela sentait la résine. La neige à peine fondue laissait place à des tapis de sol d'annelle. La petite chambre du fond, la plus ancienne, avait été préparée. Les poutres y grinçaient. Et la fenêtre donnait sur les villages d'en face, dont on retenait les noms en chapelet. Nax, Vernamiège, Maz, Soin, Saint-Martin. On en répétait la liste tous les matins. Nax, Vernamiège, Maz, Soin, Saint-Martin. Pour aller au pain, on prenait par les taillis vers un village. La tante disait « On sera vite à Érémence » et ce nom d'errance nous plongeait dans la rêverie. Durant la nuit, une vieille femme ébouriffée, laide, s'était tenue dans la chambre, muette, près de la paroi. On a hurlé et la tante Bertha, en chemise de nuit, a ramené le calme, déclarant que c'était une imagination d'enfant ou un mauvais rêve. Pourtant, on avait vu la sorcière ou son fantôme et rien ne pouvait être plus anodin. Ne pouvait plus être anodin. Pourquoi la tante voulait-elle nous emmener à la montagne à ce moment de l'année ? Son mari travaillait à l'usine de plaine, elle avait fermé son salon de coiffure pour quelques jours, nous avions été excusés à l'école. Tout était comme arrangé, sans grâce. On mangeait pourtant avec appétit dans la véranda, la tante était autour du fourneau, on l'aidait à porter les bûches et le reste du temps elle nous expédiait dehors. Les matelas oranges glissaient jusqu'à des sous-bois encore humides, s'arrêtaient contre des blocs de neige grise. Vers midi, Bertha appelait sa fille une fois, « Annette, à table !» et on remontait la pente, traînant nos jouets, essoufflés, affamés. La tante venait de cette région qu'on connaissait mal. Elle était entrée dans la famille par mariage. Son frère, le cantonnier, était courtaud, rouge, toujours souriant. Sur la route, nous l'avions vu plusieurs fois, occupé à jeter du gravier sur la neige ou à déblayer des chutes de pierre. C'est peu après le repas de midi, le 3e jour. On jouait sur les matelas dehors, une voisine est venue frapper à la porte, dire qu'on cherchait à atteindre la tante au téléphone. Oui, son mari restait en plaine. Il fallait traverser la forêt vers un foyer pour retraiter ou rejoindre la seule cabine publique. La tante préparait de la monnaie à glisser dans l'appareil, elle nouait son foulard, ne pouvait pas dissimuler sa nervosité. Bon accueil, mais le nom du foyer ne formait dans nos oreilles qu'une longue syllabe incertaine, bon accueil. La bâtisse se tenait sous de hauts mélèzes, trapue, humide, posée là depuis toujours. La tante s'agitait au téléphone, on jouait devant la cabine, mais ses gestes étaient inaccoutumés et ses yeux devenaient rouges, humides. Pendant tout le temps que l'oncle nous a ramenés en plaine, comme des réfugiés après un séisme, qu'il nous parlait du loup ancien et de sa chute, on avait tendu l'oreille aux messes basses de la tante, volé au passage les mots « train » et « accident ». Mais impossible de comprendre ce qui était arrivé à maman.
Voilà donc deux moment de courtes nouvelles tirées de fantômes. Deux moments qui, me semble-t-il, n'ont pas été choisis tout à fait par hasard, Jérôme, puisque les deux, sous couvert d'un repas, de rumeurs, de paroles, vont les deux déboucher sur deux drames, deux morts terribles, et qui procèdent un peu par ellipse. Donc, dans Fantôme, ce très beau livre qui est paru il y a exactement une année aux éditions d'En Bas, avec ses illustrations, c'est à la fois une manière, me semble-t-il, de poursuivre par cet univers qu'est le village, ton enfance et les gens qui l'habitent, et à la manière de venir les visiter par du spectral, par une écriture respectueuse, toi vivant, venant les visiter un peu aussi comme un fantôme. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que sous couvert d'ordinaire et de paroles, la menace est extrêmement latente et au fur et à mesure de la lecture, on va la sentir monter. Ce qui fait que ces fantômes que tu convoques, en fait, depuis ton premier texte, mort ou vif, les morts au pluriel, le vif au singulier, c'est peut-être ta singularité, c'est une manière de les convoquer et de venir leur parler. Et ce fantomatique qui hante un peu ton œuvre.
Bah oui, il y a souvent des disparus, parce que pour moi, c'était une des choses qui m'a poussé à écrire. Alors, je ne sais pas tellement pourquoi, mais disons, aujourd'hui, je dirais pour me débarrasser d'eux, en quelque sorte, pour les enclore dans des textes qui à la fois leur rendent hommage, mais qui en même temps les éloignent de moi. Donc le texte, pour moi, est assez distancé quand même. J'ai trouvé une forme pour pouvoir parler de ces choses avec une certaine distance, comme si elles étaient plus tout à fait proches. Voilà, donc j'ai trouvé ma manière de régler cette question, je ne sais pas comment.
Alors, je vais laisser quelques points de suspension, parce que la réponse me paraît effectivement un peu suspendue. Je me souviens, juste dans Mort ou Vif, c'est paru chez Zoé en 1999, il y avait trois morts tragiques, et ces morts tragiques, et là on en retrouve deux dans les textes que tu viens de lire, ils fixaient le ton, la tonalité. Et peut-être qu'on va essayer, là maintenant, avec Fantôme, d'entrer dans cette tonalité. Et ça te poussait aussi à rechercher la langue de l'enfance. Alors, on pourrait peut-être dire que la langue de l'enfance, elle est donnée ici, on le voit bien, avec cette comptine, Babi, Bouchette, Mad, la fratrie, hein, puisque tu es né au cœur d'une famille de quatre frères et sœurs, vous étiez cinq. Alors, langue d'enfance, est-ce que c'est simple de se remettre à pouvoir parler la langue d'enfance?
Disons, la différence que moi je perçois, c'est que dans Mort ou Vif, c'était un livre où le récit de ces morts était beaucoup plus proche et beaucoup plus affecté par les... C'était un récit vraiment de... Bon, c'était quasiment un témoignage, on peut dire, même s'il y a une mise en forme. Tandis que là, je pense que c'est des textes très différents. Pour moi, c'est déjà des fictions, même si ils peuvent évoquer un référent. Mais pour moi, c'est déjà des sortes de fictions. Et la question de la langue de l'enfance, qui était le démarrage de Mort-Vif, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir entendu une langue qui était le dialecte, qui était la langue affective, secrète de la famille, et puis d'avoir perdu cette langue, sentiment qui était à l'origine du livre. Maintenant, je l'ai perdu aussi, ce sentiment. Sans doute avec le temps et avec l'âge, etc. Enfin, j'ai plus d'émotion particulière pour ce dialecte quand je l'entends, parce que je pense que ça s'est éloigné, c'est fini. Et donc, c'est autre chose qui motive la tonalité là, du texte, plus une recherche de distance, de mise en forme et de... Ouais, pas dire autrement, mais en tout cas c'est vrai que c'est plus le même contrat avec le lecteur que dans Mort ou Vif.
C'est marrant que tu dises c'est plus le même contrat, parce que j'avais à la lecture de ces fantômes, donc, dont on a aussi parlé en radio, J'étais frappé d'une chose, c'est-à-dire que Jérôme Maizot, je m'adresse à vous, on va pouvoir faire circuler ce texte, s'adresse à ces fantômes, à ces gens plus ou moins disparus, à ceux que tu recherches dans le village, mais c'est comme si toi, tu te mettais dans une peau un peu spectrale et que tu venais avec cette mise à distance que je ne qualifierais pas de la même façon. Je sens peu de distance, mais je sens que tu es toi-même dans une écriture un peu spectrale en train de les englober, de les cerner, et que tu es toi-même un peu un spectre en train de tourner et de danser avec tes spectres.
Oui, parce que ce qui m'a aussi donné l'idée du spectre, c'est le sentiment de ma propre absence à ce village, c'est-à-dire simplement j'y vis plus et je ne suis plus membre de cette communauté, donc je la vois de l'extérieur et pour moi je la vois d'ailleurs, presque de l'au-delà. C'est devenu des personnages, c'est devenu une fiction, c'est plus une réalité et je peux me promener dans ce monde de personnages qui justement devient de plus en plus fictionnel. Et moi, ce qui m'avait frappé en commençant à écrire le livre, c'est de me rendre compte que j'arrivais à un âge où je connaissais, dans ce village, je connaissais presque plus de morts que de vivants. Enfin, il y a un moment où on commence à faire les comptes, puis on regarde tous ceux qui sont déjà allongés, puis on se dit bon. Et puis on ne reconnaît plus les plus jeunes, bon, ça c'est des trucs de génération, enfin, on ne reconnaît plus les enfants. Bon, tiens. Et je me suis dit, j'avais l'impression d'être en communication, je ne dis pas ça de manière mystique, mais j'avais l'impression de pouvoir ressentir et encore dialoguer avec ceux qui étaient disparus et dont je vois tout le temps les visages et dont j'ai gardé une mémoire un peu involontaire, mais très, très précise. Voilà, donc c'était l'occasion d'explorer un peu cet univers.
C'est vrai que dans un des moments du texte, puisque ça se présente comme des textes qui se répondent en écho, tu les as un peu conçus. On dit volontiers que Fantôme, c'est un chapelet de petites nouvelles. Est-ce qu'on pourrait dire plutôt que c'est un chapelet de moments précis? Il y a des scènes de repas, des scènes de querelles, des scènes aussi de souvenances, qui met en scène une vie du village, mais une vie qui le déborde, parce que ce village n'est pas non plus identifié très clairement. Et bien sûr, il y a des marqueurs, il y a des personnages qui sont bien identifiés, et à la fois, ce village, il n'a pas de limite véritable.
Oui, alors quand j'ai écrit les nouvelles, je n'ai pas forcément pensé à ces types de scènes que j'allais y mettre. La contrainte, c'était d'avoir dans chaque texte une scène qui évoquait le moment d'une disparition ou la revenance d'un disparu, soit dans un rêve, soit dans la pensée, soit dans l'imaginaire. Pour les scènes de disparition, j'essayais alors là de rendre au plus près le souvenir un peu stupéfiant du moment où on apprend la disparition de la personne, qui est un moment assez étrange parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est vrai, on doit un peu stater, il y a une hésitation qui est justement un espace ouvert pour moi pour la fiction.
Pour la fiction, qu'est-ce que tu veux dire vraiment par là? Que à partir de là, ce village, il devient un peu plus infini. Il est un des lieux de l'ordinaire, puisque tu aimes bien écrire sur l'ordinaire. Pourquoi tout de même, depuis Mort ou Vif, en passant par Jour Rouge, la figure du grand-père, en passant aussi par Père et Passe, la figure du père, c'est tout de même ce village, c'est ce lieu, c'est quand même cet ancrage qui s'impose. Et tu parles de fiction. Est-ce que c'est, avec Fantôme, une manière de te décaler par rapport à ce premier lieu qui serait ce village?
Oui, disons, pour moi, ce village, bon, ben voilà, il n'a rien de particulier, mais c'est le lieu où j'ai éprouvé les premières émotions fortes dans tous les domaines, donc, où, je le dis dans un des textes, où les personnages peuvent porter même le nom des sentiments, enfin, le bien et le mal. Quand on est tout petit, ça apporte des visages, quoi. La fourberie, ça a un visage, etc., avant qu'on la généralise. Et donc, pour moi, c'est un réservoir, je dirais, presque infini de situations et de personnages. Mais ce n'est pas le village en soi qui m'intéresse. D'ailleurs, je nomme pas, je ne cherche pas à le particulariser, parce que je pense que dans tous les villages, il y a ce type d'expérience qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça va de plus en plus vers la fiction. Sans que j'y ai trop réfléchi, mais c'est là que ça se dirige.
D'accord. Ok, donc Fixo qui revient quand même dans tes réponses plusieurs façons. Peut-être qu'on va parler d'une autre fiction ou d'une mise en imaginaire. Donc on évoquait les aquarelles de Zivo dans ce livre qui est parcouru par l'imaginaire de Zivo. C'est aussi une rencontre très forte, où lui a su capter par ses aquarelles un état de ta démarche. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Zivo, qui t'a offert ses aquarelles pour l'illustration du livre ?
Donc c'était un projet qu'on a fait parce que dans Père et Pain, justement le précédent, c'est lui qui avait déjà fait la couverture. C'est un ami et j'aime ce qu'il fait. Donc j'allais souvent dans son atelier, on a beaucoup discuté, et je lui demandais une fois de me faire une couverture. Et ensuite, on a décidé de faire ensemble un vrai livre à quatre mains, qu'on a vraiment signé les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des textes qui sont illustrés par Zivo, c'est vraiment un livre qu'on a conçu ensemble du début à la fin, avec l'éditeur Jean-Richard, qui est là aussi, avec un graphiste. Mais c'était vraiment un projet en dialogue, c'est-à-dire que je lui amenais des bouts de texte ou des idées de textes que je voulais écrire. Et puis il me proposait des images, on faisait des choix, j'amenais le texte suivant, quand j'écrivais j'avais ces images avec moi, et on s'est rendu compte qu'on avait des points communs dans les intérêts, notamment pour les figures de spectre. Alors il m'a parlé lui-même de ses propres fantômes, c'est-à-dire de ses disparus qui sont présents en général dans ses toiles. Il y a pas mal de toiles dans lesquelles il peint des figures, notamment son grand-père, sous un arbre. Il y a une scène qui revient tout le temps dans sa peinture, la figure du grand-père avec une canne. Bon, c'est lié à une histoire qui lui est personnelle, mais qui devient presque mythique dans la suite des toiles qu'il fait. Et donc, on s'est très bien compris sur cette question du fantôme, du spectral, sur ce qui subsistait quand la personne avait disparu, donc sur le double aussi, et puis la décalque presque avec... Plusieurs images sont à double, c'est-à-dire avec une figure entièrement dessinée, puis une autre qui est sous forme ombrée. Et donc on a des petits diptyques comme ça, il y en a quelques-uns dans le texte.
Par exemple
celui-ci. Il y a à gauche pour vous, des personnages, et puis à droite une version spectrale. Donc c'était fait aussi, là, je crois qu'il y a une autre image ici. Voilà, là, pour le... Mais en même temps, voilà, à gauche, une image beaucoup plus prononcée, puis à droite, la version fantôme, quoi. Mais c'était pas non plus... On n'avait pas du tout l'idée d'illustrer, c'est-à-dire qu'il n'a pas dessiné des choses à partir du texte uniquement. Il ne s'agissait pas de représenter un personnage qui était dans le texte. C'était plutôt d'avoir une résonance. S'il y avait Parfois, c'est un objet, ça peut être l'accordéon, ça peut être la bicyclette, un seul objet du texte dont il s'emparait pour faire quelque chose... qui avait un sens, parce qu'une bicyclette, voilà, qui a, dans certaines images, qui est tombée à terre. Et donc, ça ne venait pas illustrer strictement le texte. Il n'y a pas forcément... Il y a une bicyclette dans le texte, mais elle n'est pas au cœur de l'histoire, et le texte ne vient pas la mettre en scène.
Et ce travail en atelier, est-ce que ça a pu, une fois... Les textes étaient écrits, ou est-ce qu'il y a dialogue quand Zivo a dessiné, il a fait une aquarelle... Est-ce qu'il va y avoir pour toi une relecture du texte ? Est-ce qu'il l'a si bien traduite en aquarelle ou par ses figures spectrales que tu t'interroges sur ton texte en te disant « Mais comment a-t-il si bien su cerner ce que tu dis ?» Puisque aussi dans Lettres au pendu et autres récits de la boîte noire, donc qui sort ces jours-ci aux éditions monographiques, tu fais un peu l'éloge de la démarche de Zivo et tu as un petit texte pour saluer aussi cette espèce de flou, cette indétermination qui t'a aussi aidé à illustrer le texte de Fantôme.
Oui, disons, je n'ai pas réécrit les textes en voyant ces images, mais par contre, quand j'avais un projet de texte, je lui donnais les premières phrases ou un petit extrait, une des premières notes. Il faisait quelques images, il en a toujours fait plusieurs images pour chaque texte, et ensuite on choisissait ensemble celle qui irait le mieux au fil de l'évolution du texte. Donc il n'y avait pas vraiment un retour sur le texte avec l'image, mais j'étais baigné de toutes ces images que j'avais avec moi au moment de travailler.
Comment ça se passe quand un artiste comme Zivo entre dans ton texte, te propose par cette espèce de dialogue artistique dessiner, aquareller, de mettre en relief tes textes. Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, une première lecture que lui fait par les aquarelles?
Oui, c'est une lecture en image. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé. J'avais le retour d'un premier lecteur, mais à travers des images, pas à travers un discours. Zivo n'est pas quelqu'un qui aime parler ou qui parle facilement de ces choses. On n'avait pas de longues explications sur les choses. C'était plutôt me donner des images. Et puis voilà, on en disait peut-être quelque chose. On rigolait, on regardait si ça allait ou pas. Mais c'était plutôt sa manière de lire mon texte, c'était réagir par une image. Donc c'était à un acte artistique, réagissait à un autre acte. Et puis on essayait de voir si ça pouvait tenir ensemble. Mais je crois qu'après, en faisant les choix, on a construit un livre qui est assez cohérent dans sa structure.
À propos de ce livre, on peut quand même citer quelques phrases que tu en as dit. On aura compris que par rapport au texte précédent, c'est marqué peut-être un choix plus fictionnel, hein, c'est ce que tu nous as affirmé maintenant. Et toujours dans Lettres aux pendus, La boîte noire, hein, donc c'est quelques textes réflexifs sur l'atelier d'écriture de Jérôme Maizot, où il s'interroge sur son écriture. Et tu dis, c'est à des fantômes en soi qu'on crie à plein poumon, voilà un moment de littérature.
Oui, c'est une phrase qui apparaît dans un petit texte, c'est vrai. Bon, c'est cette idée simplement de... Souvent, moi, quand j'écris, j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un d'absent. Quoi. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à mes lecteurs, mais j'ai souvent un absent en ligne de mire à qui je m'adresse ou à qui je destinerai ce texte. Donc, et il me semble que c'est dans ces moments que... Je ne veux pas généraliser, mais dans ces moments que j'arrive à trouver une voix qui n'est pas tout à fait la voix ordinaire. Donc trouver autre chose, un ton, quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ressenti quand on écrit, on cherche, je pense comme les chanteurs ou autres, on cherche un moment où la voix est à sa bonne place. Et puis on reconnaît tout de suite quand elle est juste, et enfin quand on travaille, et puis il faut travailler ça bien sûr, mais une fois qu'elle est reconnue, ben, le texte peut exister, et ben, il va en général jusqu'au bout assez facilement. Donc, pour moi, c'est souvent en m'adressant à des absents que ça fonctionne. Et dans le texte que tu cites, je cite d'autres écrivains bien plus illustres qui ont utilisé ce procédé. Je pense à Faulkner, mais aussi à Maurice Chappat, par exemple, qui souvent le fait. Quoi.
Alors, on va peut-être voir comment ça fonctionne avec Le Gueux philosophe, qui est un livre que je crois très important, qui est paru aux éditions Antipode en 2003. Qui était pour toi une manière non seulement de revisiter la figure, de convoquer aussi Norbert Elias, ce grand sociologue qui s'est beaucoup interrogé sur la première autonomie que certains artistes ont pu revendiquer à la fin du XVIIIe siècle. Lui, il pensait à Mozart, et tu mets Mozart et Rousseau en parallèle pour dire que la posture d'autonomie, que la posture de Rousseau est tout à fait extraordinaire, et qu'elle se construit dans une opposition avec des phases, et qui va même convoquer la maladie. Et là, nous allons glisser dans le deuxième texte mis au sommaire de ce soir, La fabrique des singularités, dont le premier chapitre est justement consacré à Jean-Jacques Rousseau, Jérôme, et voir que par ce glissement, en convoquant sa maladie, Rousseau invente une posture qui t'a beaucoup intéressé, du Gueux philosophe, à la fabrique des singularités.
Oui, ce qui m'a intéressé dans cette posture de Rousseau, c'est-à-dire le fait de se présenter à son public comme un artisan modeste et indépendant qui œuvre pour l'égalité, par exemple, ce type de présentation de l'auteur au public m'a fasciné parce qu'il a eu toute une postérité au XIXe siècle. C'est la méritocratie républicaine, c'est la passion de l'égalité. Et beaucoup d'auteurs se sont référés ensuite à Rousseau. Moi, j'en fais un petit peu l'histoire dans Le Gueux philosophe. C'est devenu une topique de la figure d'auteur. C'est l'auteur démocratique, en quelque sorte, hein, qui a encore ses épigones aujourd'hui. Donc, il semblait que c'était un linéament comme ça dans l'histoire des figures d'auteurs qui était important à souligner. Puis c'est surtout quelque chose qui m'intéressait, justement. Donc c'est lié aussi à une passion de cet intérêt pour ces figures.
Alors on est entré dans cette discussion sur la posture de l'écrivain par Rousseau. On va peut-être revenir à ce projet, donc oui, ça c'est le deuxième tome, Posture littéraire 2. Et c'était en 2007, Posture littéraire, mise en scène moderne de l'auteur. Alors par Rousseau, on peut revenir à ce projet initial. Tu dis, chez les écrivains, bien des modèles d'action, posture, rôle, mais aussi motifs littéraires, ont des fondements très anciens. Ça, on croit le deviner chaque fois qu'on a un texte et son épaisseur, même s'il se revendique complètement nouveau ou dans un renouvellement. Mais c'est déjà l'amorce de ta discussion sur la posture qui se veut complexe. Comment on pourrait la définir dans ce projet dont voici le deuxième tome?
Bon, ce que j'ai appelé posture dans ces recherches, c'est la présentation de soi que l'auteur fait au public quand il publie, quand il se présente publiquement. Et donc, ça recouvre à la fois l'image de l'auteur dans les textes publiés, l'image que le lecteur peut déduire en quelque sorte de l'auteur dans le texte. On se fait une image de l'auteur du texte qu'on est en train de lire, même quand on n'a pas son image, mais on s'en fait une à la lecture. Il y a des effets de figuration qui sont donnés dans le texte. Et puis, l'autre pan de la posture, en quelque sorte, c'est les conduites publiques de cet auteur, justement, en tant que personne de chair, hein, qui, dans certaines occasions, se présente sur la scène de la littérature, se présente publiquement sur la scène de la littérature, et le fait dans un certain répertoire de rôles, d'attitudes qui sont plus ou moins précontraintes par l'espace public de la littérature. Les écrivains, on connaît ces fameuses photos d'écrivains qui posent devant leur bibliothèque, d'écrivains qui posent avec leur cigarette ou avec leur pipe, etc. Donc on a évidemment un certain nombre de topics de la représentation de l'écrivain, et puis il y a les auteurs qui se sont glisser dans ces topics. On pourrait faire une expo photo sur, très facilement là-dessus. Il y en a d'autres qui ont essayé d'échapper à celle-ci ou de modifier ces images d'auteur. Donc voilà. Donc la posture, c'est ça. Hein. C'est pas. Alors le problème, c'est ce terme de posture qu'on oppose à imposture, ou ce terme de posture qui est utilisé aussi dans un sens beaucoup plus large aujourd'hui dans les médias, et parce que c'est simplement un mot de la langue ordinaire, qui supposerait qu'il s'agit de prendre des pauses, qu'il s'agit de calculer sa manière d'apparaître. Mais moi, ce que j'étudie dans les textes, c'est pas du tout ça. Hein. C'est, pour moi, le phénomène de posture, il est lié, il est inhérent au fait d'être en situation publique. Et quand un auteur prend la parole ou propose un texte, il y a un phénomène de posture qui va se mettre en place et qui est une négociation complexe entre ce que l'espace public de la littérature dans son historicité propose comme figure d'auteur et le besoin de singularité que chacun semble activer dans ces moments. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « La fabrique des singularités ». Il y a un impératif de singularité dans l'espace de la littérature. C'est un des lieux où les gens sont sommés à se singulariser et donc le font d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être dans la langue, justement, alors avec des phénomènes de style et de ton, mais ça peut être aussi dans les conduites. Et je décris quelques conduites, alors assez célèbres. Ça peut être Blaise Cendrars, la fameuse « La chemise ouverte et la cigarette », ça peut être Sartre, etc. Donc, on connaît ces figures, on peut aussi historiquement les situer, etc.
Alors, si on reste à Cendrars et sur cette photo célèbre, quasiment officielle, Cendrars avec la cibiche au coin de la lèvre, la chemise ouverte, cette posture de l'écrivain reporter qui se crée dans les années 30, l'homme à la main coupée, bien sûr, parce qu'il y a aussi dans sa posture cet élément-là, même si ça l'a fait horriblement souffrir, et s'il a dû apprendre à écrire de la main gauche, on peut imaginer aussi le changement que ça a représenté dans sa mise en écriture des textes. Mais cette manière de faire, c'est aussi essayer de cerner une singularité, mais on voit bien que la singularité, par la photographie, par la mise en scène de l'écrivain, elle est dictée par d'autres discours, elle est dictée par d'autres attentes. Donc la posture, c'est aussi articuler le singulier que l'auteur veut absolument créer pour se singulariser dans la langue de tous, et à la fois porteur, bah tiens, on y revient, c'est pas celle de ton grand-père, mais sa bibliothèque, puisqu'il écrit avec quantité de bibliothèques, et toi aussi tu écris avec tous les livres que tu as lus, imaginés et parcourus.
Bon, dans le cas de Cendrars, c'est justement, j'essaie de décrire sa posture comme non pas quelque chose qui est strictement singulier, mais quelque chose qui est une réponse dans l'attitude, ça peut être dans les conduites corporelles, mais aussi évidemment dans les textes, dans le ton des textes, une réponse à un environnement littéraire qui se présente comme hostile ou qu'il envisage comme hostile. C'est-à-dire que quand Sandrart écrit, par exemple, la tétralogie après la guerre, il l'écrit aussi contre, et dans l'espace littéraire, on n'écrit pas seulement pour des gens, mais aussi contre des gens, c'est-à-dire qu'on se singularise par rapport à d'autres. Et par exemple, une des haines de Sandrart après 1945, c'est Sartre. Donc il faut tout faire, et ça apparaît dans la correspondance, pour ne pas apparaître comme un littérateur de cabinet, pour ne pas être un écrivain professeur, donc ne jamais poser, par exemple, dans une bibliothèque, ne pas poser avec des vêtements qui évoquent le bourgeois installé, etc. Et donc, moi, je relis non pas... Alors, ce n'est pas des anecdotes biographiques, c'est simplement essayer d'articuler ces phénomènes de présentation publique avec la poétique du texte, et où là aussi, on trouve des phénomènes du même type, l'écriture rhapsodique, l'intérêt pour l'oralité, l'intérêt pour les argots, le langage populaire. Proposer une langue qui ne soit pas la langue sage, académique, traditionnelle, qui est mobilisée par d'autres auteurs. Voilà.
J'aimerais faire un lien entre ce que tu viens de définir sur la posture, et puis cette thèse importante, L'âge du roman parlant, que tu as défendu, publié à la librairie Drault en 2001. Voilà, je me perds un peu dans les dates, avec une préface de Pierre Bourdieu. C'est important parce que, précisément, dans La fabrique des singularités, en fin de volume, tu discutes ce que c'est que préfacer un texte, de le signer, de l'accompagner et de le défendre. Et entre posture et l'objet de la thèse, c'est-à-dire l'oralité, mais aussi la création de cette langue qui, par Ramu, par Aragon, par Poulaille ou d'autres, ont voulu se définir en dehors de la belle langue, ou ce que tu appelles le haut langage, est-ce qu'il y a aussi un lien? Est-ce que cette thèse cernant ce que les écrivains empoignaient en termes d'oralité, on pense à Ramu bien sûr, si on se rapproche un peu des écrivains ici, était aussi une manière pour toi ensuite de parler un peu mieux de leur posture face à la langue? Et finalement, Ramu, défendant la lettre à Bernard Grasset en 1938, ce Ferreur, défendant sa position face au langage et ce qu'il croit devoir défendre par rapport à la langue qui n'est précisément pas le haut langage, qui n'est pas la langue normée, qui n'est pas la langue, le français normatif.
Oui, en tout cas, j'étais passionné par les écrivains qui étaient en rupture avec la langue académique, avec les normes de l'écriture d'époque, notamment avec tous les écrivains qui avaient eu des conflits avec les grammairiens. C'est comme ça que j'avais commencé à travailler, parce que je m'étais aperçu que dans les années 20-30, il y avait une série de débats extrêmement virulents dans la presse et dans les revues autour de la grammaticalité de la langue des écrivains. Il y a eu des études là-dessus après. Et je me disais, mais pourquoi, où est la zone de frottement? Alors c'était évidemment une question de conception de la langue littéraire. Qu'est-ce que ça doit être, la langue littéraire? Est-ce que c'est la langue des dictionnaires? C'est la langue des grammaires? Est-ce que c'est une langue qui doit être respectueuse de cet ordre-là? Ou est-ce que c'est une langue de l'invention, de la différence? Et donc j'étais fasciné par les auteurs qui mobilisaient des formes de langue qui à l'époque en tout cas n'étaient pas accepté comme tel. Alors aujourd'hui, on lit Céline, ou on lit Queneau, on lit Giono, sans avoir un sentiment d'extrême différence de la langue, parce qu'on s'est acclimaté à ces mises en forme. Mais les débats sur le moment, autour de Ramu, par exemple, ou de Céline, ont été vraiment très violents. Et quand on relit aujourd'hui les arguments des critiques de l'époque, on sent bien la distance qui nous sépare d'eux dans la conception qu'on a de la langue.
Alors je disais, puisqu'on ne pourra pas tout évoquer ce soir, je disais que cette thèse, publiée chez Drault, avait été préfacée par Pierre Bourdieu. C'est une aventure, c'est une rencontre, c'est des discussions nombreuses que vous avez eues ensemble à Paris, quand tu suivais son séminaire, je crois. Tu pourrais nous raconter aussi comment ça s'est passé avec Bourdieu. Et ce n'est pas évidemment tout à fait anodin de voir sa thèse préfacée par Pierre Bourdieu. Ça t'a peut-être mis aussi dans l'embarras à certains égards.
Ah bah oui, ça peut être un peu lourd hein, d'avoir ça.
Lourd et prestigieux.
Alors oui, c'est prestigieux. Si c'est intéressant d'avoir une thèse préfacée par Bourdieu. Il faut dire qu'il l'avait suivi en bonne partie. Donc c'était intéressant d'avoir ce regard sur la thèse à la fin.
Comment ça s'est passé, cette rencontre? Tu avais suivi un de ses séminaires à Paris. Et finalement, comment a-t-il accepté de suivre ta thèse et finalement,
Ça s'est passé beaucoup plus simplement. Et c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant comme anecdote, oui. Je crois. Je lui avais simplement envoyé... j'avais lu... les règles de l'art quand elles avaient paru en 1992, et moi j'étais un peu égaré, enfin à l'université je ne me reconnaissais pas dans un certain nombre de thèmes ou de thèses qu'on nous enseignait, et je ne retrouvais pas mon goût pour la littérature dans la manière dont on nous enseignait les choses, et j'avais lu les règles de l'art, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup frappé, je n'avais pas vraiment compris les enjeux du livre, mais enfin je m'étais dit, ça je peux essayer de le comprendre, ça m'intéresse beaucoup plus comme ça. Alors je lui avais écrit, je lui avais envoyé un petit projet d'article que j'avais fait sur justement le rapport entre les écrivains de Suisse romande et les écrivains parisiens. Bon, je travaillais sur centre et périphérie, j'ai fait ensuite des papiers là-dessus, et c'était un petit projet d'article, mais vraiment quand j'y repense aujourd'hui, voilà, j'étais étudiant en lettres, donc c'est un projet d'article, donc c'était vraiment quelque chose d'assez simple et un peu maladroit, mais enfin ça a dénoté, je pense, quand même une certaine passion pour ce sujet, puis pour le livre qu'il avait publié. Et je lui avais envoyé ça en lui disant, est-ce qu'on pourrait en discuter, moi j'ai pas vraiment d'interlocuteur sur ce thème. Et Bourdieu avait fait un petit article qui s'appelait Existe-t-il des écrivains belges, qui posait exactement cette question-là. Et alors il m'a dit, venez me trouver, et puis on va discuter. Donc il a répondu très gentiment. Et après, il m'a demandé de venir dans un de ses séminaires présenter ce projet d'article. Je suis tombé sur des gens vraiment bienveillants qui ont vu que j'étais étudiant et qui m'ont pas assassiné tout de suite. Et au contraire, lui, savait très bien tirer le meilleur, même d'un travail tout à fait inabouti. Et il m'a donné des pistes et il m'a dit, continuez, c'est un beau sujet, il faut travailler là-dessus, allez-y. Voilà, puis ça s'est enchaîné. Et donc ensuite, il n'a pas dirigé la thèse, mais il l'a accompagné. Donc on se voyait souvent avec des bouts de chapitres. Et moi, ce que j'ai surtout aimé chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui... Enfin, il y a plein de gens qui ont un avis là-dessus. C'est pas quelqu'un de très aimé dans le monde littéraire, hein. Mais il était extrêmement agréable. Moi, je représentais pas un enjeu pour lui, donc il était parfaitement sympathique, généreux. Il me donnait plein de pistes, d'idées. Il me donnait des choses à lire. Donc c'était une espèce de brainstorming. Moi, je prenais des notes. J'en avais pour 2 mois de réflexion après une demi-heure de discussion dans le bureau du Collège de France.
Il n'y avait pas ce côté rugueux qu'on a souvent pu dénoter chez Pierre Bourdieu. Cette grande nervosité, c'était un peu rugueux, un peu pas très abordable, comme on a pu le dire. Mais ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Bourdieu ou contre Bourdieu?
Je ne l'ai pas senti parce qu'il était très... Voilà, j'étais un étudiant, il était très aimable, je ne sais pas comment... Il était...
Donc accueil...
Il semblait très naturel, donc il... Voilà, et puis il était curieux, ça c'est qu'il faut reconnaître qu'il avait cette qualité, il avait une énorme curiosité pour toutes sortes de sujets de recherche, d'ailleurs on n'a qu'à voir la liste de ses travaux, il a travaillé aussi bien sur la boxe que sur que sur l'épiscopat français et sur le marché de la villa en Seine-Saint-Denis, et c'était pas de l'éclectisme, c'était quelqu'un qui allait très au fond de pas mal de choses, mais... Tous les sujets dans lesquels il pouvait essayer de comprendre des logiques sociales le passionnaient. Donc il ne cessait d'avoir... D'ailleurs, il avait beaucoup d'autres interlocuteurs. Moi, je n'étais pas du tout singulier. Il y avait beaucoup d'autres interlocuteurs que je connaissais, d'ailleurs des Belges, des Brésiliens, etc., qui venaient régulièrement avec leurs petits bouts de papier. Ils disaient, il fallait voir ça, va voir ça, rappelle-moi. Et bon, il y avait une espèce de passion, c'est vrai, là autour. Je n'ai pas beaucoup retrouvé ailleurs, je dois dire, cette passion.
Voilà. Après, c'est poser la question justement de cette préface. Alors, c'est par hasard si tu en fais part dans La Fabrique des Singularités. Tu te demandes aussi qu'est-ce que c'est que préfacer un texte. Il y a peut-être 3 types de préfaces. Celle-ci était nettement accompagnée une démarche. Avec quand même un couac, c'est que Pierre Bourdieu dirigeait la collection Libère aux éditions du Seuil. Et l'éditeur, contrairement à ce que Bourdieu peut-être espérait, mais on ne le sait pas très bien justement, tu vas pouvoir le préciser, Jérôme, on te dit, le sujet n'est pas publiable en l'état, il est trop suisse. Et en fait, ça relance le cœur même du sujet de la tête. Et ça, je pense que C'est évidemment, on a dépassé l'anecdote, on revient au cœur de ce que tu essayes d'analyser, avec Ramu, ce rejet. Donc ça doit être quand même difficile à vivre, même cautionné par une préface de Bourdieu.
Non, le paradoxe, c'était que j'avais fait tout un gros livre pour essayer de décrire cette situation asymétrique entre les écrivains suisses et la France, la relative cécité de la France sur la production périphérique, etc. Tous ces trucs, je l'avais développé et en donnant ce manuscrit au Seuil, comme Bourdieu m'avait demandé de le faire. Ce n'est pas moi qui était au Seuil et essayé de placer mon bouquin. Il m'a dit, vous réécrivez votre thèse en 300 pages et le 31 août, vous la déposez au Seuil. Bon, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et deux mois après, on me dit, oh, c'est un sujet trop suisse, on ne peut pas publier ça, ça ne se vendra pas. Donc, c'est vrai que là, j'ai eu la vérification empirique de ce que j'avais proposé. Et bien sûr, il fallait qu'elle se retourne contre moi. Donc, sur le moment, c'était un peu cuisant. Maintenant, je me marre parce que je me dis que finalement, j'ai bien décrit la situation et je ne me suis pas tout à fait trompé. Voilà. Donc, voilà, le livre a été publié chez Drault et Bourdieu, qui était un peu malheureux que le comité de lecture ne veuille pas de ce livre, a proposé de faire la préface. Donc, c'était un petit peu pour, j'imagine, pour rattraper le truc.
Mais ce livre, il a rayonné, il se fait refuser dans le cadre de la réécriture à Paris, il est publié à Genève, on en est très heureux, et puis il rayonne, alors la préface a peut-être aidé comme levier à le faire rayonner, et ensuite cette thèse, puis d'autres travaux, puisque tu publies beaucoup, articles, colloques et autres, vont essaimer un peu partout. Et donc tu te rends compte que la singularité du sujet, lié justement à cet état de tension entre langue normative de Paris et langue périphérique, on va l'appeler ainsi, en fait, te permet, toi, de mettre en mouvement toute ta propre littérature réflexive.
C'est vrai qu'après, les choses se sont enchaînées, parce que en travaillant sur cette thèse, petit à petit a émergé cette question autour de la posture des auteurs, parce que je me suis rendu compte que pour comprendre la manière dont certains auteurs avaient envisagé leur propre mode d'écriture, cette question de la posture était centrale. Moi, j'ai d'abord travaillé sur Louis-Ferdinand Céline avec essayer de comprendre comment, à un moment donné, il invente une posture de parole particulière dans une conjoncture littéraire très particulière, qui est celle des débats autour de la langue du peuple en littérature, et comment il trouve une solution formelle à ce débat extrêmement complexe de l'époque que j'essayais de retracer. Et aujourd'hui, pour les lecteurs, voilà, on dit Céline a inventé, je sais pas, le style oralisé en littérature, mais on isole évidemment ce cas assez fantastique, mais on l'isole de toute cette forêt de tentatives qui avaient précédé, qui sont contemporaines, dans lesquelles il n'émerge pas tout de suite d'ailleurs, il emprunte à d'autres, etc. Donc j'ai restitué le collectif autour de cette singularité, mais j'ai aussi essayé de restituer les motivations à se fabriquer comme singulier, justement, chez Céline, par exemple.
Tu as des phrases assez courtes, tu développes formidablement bien, et puis, hop, singularité, il faut que je retourne. On a fait un peu ce périple à travers la fabrique des singularités, la posture, Jérôme. Et comme par hasard, on est parti de la bibliothèque du grand-père, de Jour rouge, ensuite Fantôme. Et je pense que c'est bien, je ne sais pas quelle est votre impression, on va pouvoir en discuter dans un instant, mais je pense qu'il y a justement une union, en tout cas un apparentement entre ce que tu écris en termes de littérature et de critique, et ce que tu écris des fictions ou fantômes, et que souvent tu présentes ça, c'est notamment présent dans Lettre au pendu, puisqu'après Lettre au pendu adressée à titre posthume bien sûr à Adrien Pasquali, il y a les écrits de la boîte noire et notamment l'atelier d'écriture de Jérôme Maizot, où il discute notamment en entretien quelle est sa position par rapport à la langue. Et il me semble que ce serait une erreur dans le cadre de tout ce que tu produis, ce que tu écris, d'être un cerveau gauche, un cerveau droit, le méso critique universitaire, intellectuel, comme le disait très justement Sylviane Dupuis en présentation, et l'écrivain. Et j'ai pas tellement envie de les opposer, parce que je te lis évidemment dans une autre position, je lis autrement bien sûr les choses, mais je vois qu'il y a quand même des liens, mine de rien. Que ce monde n'est pas si cloisonné, quoi que tu en aies et quoi que tu en dises. Qu'est-ce que je peux t'interpréter là-dessus ?
Parce que ce serait de la schizophrénie si c'était complètement cloisonné. Hein.
Mais ça ne participe pas d'un éthos, puisque c'est aussi
un terme important. Je me pose les mêmes questions quand je fais des analyses d'auteurs, de textes d'auteurs, et quand je réfléchis à ma propre écriture. Donc il y a des questions qui sont communes, et il y a donc des ponts entre ces deux univers. Mais c'est quand même deux pratiques qui sont assez distinctes, par contre. L'écriture académique, proprement dite, elle se donne un certain nombre de règles, de procédures, de manières de faire, qui sont liées à l'institution et qui ont leur raison d'être, d'ailleurs. Hein. C'est des règles dont je ne me sens pas... quand j'écris pour moi des textes personnels, c'est des règles qui, évidemment, n'existent pas. Enfin, c'est un autre espace, c'est un espace de l'imaginaire, c'est un espace... c'est simplement deux espaces. Je ne dirais pas qu'ils sont totalement distincts. Il y a évidemment des liens. Mais je suis toujours heureux de passer d'un espace à l'autre parce que j'ai l'impression d'avoir une double existence. Une espèce de... C'est comme quand on voyage, quand on vit à l'étranger... On a l'impression d'être une autre personne. Quand on vit très longtemps ailleurs et dans une autre langue, on a l'impression d'être une autre personne. Ça, c'est magique.
Alors, je disais qu'il y a peut-être ce point d'articulation, c'est l'éthos, c'est une manière de te situer par rapport à l'écriture, aussi bien ton écriture personnelle que cette écriture critique. Et comme par hasard, si tu as choisi en 2003, publié chez Antipode, Le Gueux philosophe, n'était-ce pas aussi une manière de te positionner par rapport à ton univers, cet univers infini et ordinaire qu'est le village? N'était-ce pas une manière de dire que toi aussi, tu développes une singularité qui n'est pas si éloignée de celle de Rousseau, refusant la pension royale de Louis XV après le succès du Devin du Village en 1752, je crois.
Disons, c'était une manière de dire que ce type de rapport à la littérature, à l'écriture et au monde est celui qui m'intéresse, oui, et qui me concerne. Donc oui, donc cette tradition qui irait de Rousseau à Jules Vallès, jusqu'à Annie Ernaux, voilà. Alors c'est évidemment des grands sauts historiques comme ça. Mais il y a un linéament quand même, une manière de se situer par rapport au monde qui me semble cohérente dans toutes ces démarches. Et je me suis mis au bout de la chaîne, c'est clair. C'est-à-dire que c'est à partir de là, à partir de cet intérêt que j'ai pour cette tradition, que j'écris et que je fais ce que je fais. Donc je me mets dans leur sillage, et Dieu sait si c'est pas forcément facile de le faire, hein, mais c'est avec eux que je dialogue, en quelque sorte, quand je travaille, quand j'écris, etc. On a tous, je crois, de ces filières d'écriture qui sont derrière nous, auxquelles on peut se raccrocher.
Voilà. Filière d'écriture, intertextualité, tout ce qui... évidemment, convoque un écrivain quand il écrit, sa bibliothèque, le monde avec lequel il écrit. Et comme par hasard, tu viens de citer trois noms, Vallès, Annie Ernaux et Rousseau, bien sûr. Pardon. Comme par hasard, eux se sont situés et positionnés comme protestataires, d'une certaine façon. Même Annie Ernaux interroge, notamment dans La Place... la boutique, le café de ses parents, l'interrogation par rapport à ce langage et tout ce qui s'y passe, et ce sentiment d'exclusion par rapport à une grande culture, une autre culture. Les trois, Vallès revendique qu'il s'est fait peut-être par l'école républicaine, il est l'écrivain de la commune, mais c'est bien en luttant contre le langage de la puissance et des puissants qu'il arrive à autre chose, que sa posture est finalement beaucoup plus forte.
Oui, c'est des auteurs qui sont en situation de combat constamment, j'ai l'impression, qui sont en conflit, notamment, pas seulement avec les puissants, mais aussi en conflit avec la culture savante qui est présente en eux et autour d'eux. Et bon, moi, je me pose également ces questions-là, donc je les vis aussi de manière personnelle. Donc c'est pour cette raison que ces questions m'intéressent et que je peux projeter aussi cette réflexion dans d'autres auteurs. Alors après, évidemment, il faut voir ce qui est de la part de la projection et ce qui est de la part de ce qui est véritablement négocié dans ces textes.